Bonjour.
Bonjour.
C'est en fait comme un départ. Mais c'est pas un vrai départ. Je pense qu'il y aura. Faut attendre. C'est un suspens, quoi. On verra.
Au fil du son. Grenouille rend hommage à Yann Parentouen, sculpteur de son, avec une série d'émissions spéciales Au fil du son. Voici l'enregistrement d'une intervention de Yann Parentouen à l'INSAS, Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, de Bruxelles, en 2002.
Tel qu'il est, il me plaît.
On était des pauvres l'un, aussi bien que l'autre. Lui était orphelin, moi j'étais orpheline.
Il était marin. Oui. J'étais boniche. D'un café. Dans la rue des Drevilles.
Ouais. Chez Mélanie.
Chez Mélanie. La bonne était partie et il est en pension, là, lui. Il a dit, la première bonne qui est rentrée ici, qui dit, ce sera ma femme. Et c'était moi qui arrivais. Et voilà. Fréhel. C'est Fréhel que j'ai servi au Havre. On chantait « J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué.
Entre les marins.
Nous avions des marins, bien sûr, hein. Et puis alors, il y avait des tailleurs de pierre aussi.
Et les tailleurs de pierre.
Mais je suis chipée pour ma pomme d'un petit bossu mal balancé.
Non, mais une préférence, oui, pour les marins, oui. À mon idée.
C'était la marine militaire.
J'étais toujours en tenue, le dimanche. En seconde mètre ou en premier mètre, enfin, ça tapait à l'œil un peu, hein.
Les tailleurs de pierre, à cette époque-là, ne comptaient pas tellement.
C'était pas des gens à part, mais la situation, tu comprends, n'était pas assurée.
Ah, moi, je voulais me marier un marin. Et pas un marin d'État. Je préférais un marin de commerce.
Le marin, bon, partait, et la jeune femme restait là avec sa maman. Elle était comme célibataire encore. Qu'avec un tailleur de pierre, souvent, on disait « Oh, il est tout le temps là, il faut s'en occuper, il y a davantage de gosses à faire à manger. » C'était pas la même vie. Elle voyageait, la femme aussi, quand il y avait un marin.
Mais même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau.
Ça s'est trouvé comme ça, quoi. Jamais fréquenté de marin.
Ah, moi, je voulais pas un marin. J'avais peur de la mer.
Et pourtant, je fréquentais un marin.
Ah, ben, tu sais, hein. Moi, j'ai connu mon mari, j'avais 15 ans. Émile, t'es tailleur de pierre, Émile. Gustave, lui, était dans la marine. Il avait le col bleu. J'aimais beaucoup les cols bleus quand j'étais jeune. Mais...
Ah, ici, c'était les marins où tu comptais. Parce que moi, j'étais mariée à un tailleur de pierre. Et si j'aurais écouté ma mère et ma sœur aînée, je ne serais jamais mariée à un tailleur de pierre. Il m'avait trouvé un copain. J'avais promis à ce marin-là de me marier avec lui. Mais justement, cette fois-là, il a été noyé dans son voyage, puisqu'il était marin. Et moi, j'aimais que Victor, j'aimais pas les autres.
Ah non, pas tailleur de pierre. Je les connaissais trop. Il les servait trop aussi. Ils aimaient trop boire.
Oui. Pas facile. Dans l'ancien temps, je te parle. Hein. Brut, sauvage. Oui. Fatigué. Et boire beaucoup. Et beaucoup d'enfants à la maison. Il n'y avait pas ce qu'il fallait, tu sais. Non, non.
Ça va être dur, hein.
Et moi, pour rien au monde, j'aurais voulu me marier avec un marin. Moi, mon mari,
Il n'y a jamais eu deux comme lui. J'ai vraiment été heureuse avec mon tailleur de pierre.
Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. Tout ça, on chantait à cette époque-là. C'était en 1938, oui.
Du 39 à 45, les Allemands étaient là. Il n'y avait pas d'homme. On attendait. On avait hâte de se marier, pas. Et puis, à la libération, ma foi, les hommes sont revenus. Et...
Ça fait depuis 1930 qu'il était en France. Et là, il était venu de Castro Laboreiro, au Portugal, quoi. Castro Laboreiro.
Il venait de l'Espagne. Il cherchait du travail, bien sûr.
Il n'était jamais retourné. Alors, il était pigeon voyageur.
Et c'est comme ça que je l'ai connu. Il est arrivé en 38 ans. Il est arrivé comme ça. Au bal, en dansant.
À ce moment-là, il y avait bal tous les dimanches.
Je le vois encore, c'était au bal, c'était un dimanche soir. Oh, je dis, quel beau jeune homme. La casquette sur le côté, comme c'était la mode, un foulard blanc, un pan devant, l'autre sur l'épaule, des guêtres sur les chaussures. Et dès ce jour...
Donc cette séquence, c'est partie d'un travail que j'ai fait sur les tailleurs de pierre qui s'appelait Le Temps des Seigneurs. Là aussi, on peut écrire Seigneur comme on veut. Et parce que mon père était tailleur de pierre et je lui ai consacré une émission. Et ça m'intéressait aussi de travailler les voix des femmes de mon village, un peu comme des éclats de pierre. Disons. La volonté, c'était de montrer... À la limite, des éclats de voix qui partent comme des éclats de pierre. Enfin, c'était ça l'idée. Et ce qui s'est passé dans cette séquence, c'est que l'accordéoniste, je pensais qu'il se souvenait de l'air et je pensais faire fonctionner la chanteuse et l'accordéon, mais ça s'est pas passé du tout comme ça parce que l'accordéoniste avait oublié, il avait perdu, il n'avait plus en mémoire. Et finalement, c'était plus intéressant. Parce que s'il avait joué parfaitement, ça n'avait pas grand intérêt. Et le fait que lui-même ait oublié cet air, qu'il ne puisse plus le jouer, a fait que j'ai hérité de bribes d'accordéon que j'ai pu placer comme ça aussi, comme une taille. Et voilà, donc, et puis c'est la réalité, c'est loin dans le temps, la mémoire a oublié, enfin, il y a tout ça qui joue. Et donc, quand on se retrouve devant une séquence, ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Enfin, moi, j'imaginais une séquence où l'accordéon aurait pris comme ça le relais du chant, mais il faut fonctionner avec ce qu'on a, c'est toujours la matière qui décide, enfin. Il faut faire confiance à ce qui arrive, en fait.
Peut-être un mot sur la coupe. Tu coupes, tu enlèves les respirations, nettes comme ça. Pourquoi ?
Parce que si on laisse, dans le cas présent, la respiration s'installer, on est très vite dans la réalité de la respiration. Ça donne vie. Et si on la coupe, on est plus vite dans la fiction. Quelqu'un qui respire. Il est bien vivant. Si on coupe les respirations, on n'a plus que sa voix pour la voix, disons, comme une note de musique. Et dans cette séquence, évidemment, j'enlève toutes les respirations pour rester dans... Oui, un peu dans la fiction, je dirais. Mais ça aide à aller vers la fiction.
Parlons de la composition, dans la pratique, pour sans révéler des secrets, mais comment tu procèdes, comment tu opères les matières, tu les enregistres, puis tu les écoutes et puis tu les tries, comment ça fonctionne?
Ces femmes que je connais bien, qui sont de mon village, donc elles avaient confiance, je pouvais passer du temps. En général, je passais une heure avec chacune d'entre elles. Et après, je réécoute ce qui est dit. Dans un premier temps, il y a un montage qui se fait dans la mémoire, sans toucher aux ciseaux et au scotch. Il y a des choses qui vont rester, d'autres pas, dans la mémoire. Il y a un premier montage. À force d'écouter, il y a des choses qui vont s'éliminer. Et là commence le réel montage. On coupe et on prend des bouts de phrases, un mot, le rire, il venait d'Espagne, les hommes n'étaient plus là, etc. Bon, tout d'un coup, il y a des phrases ou des mots qui vont pouvoir être sortis de l'ensemble, une fois de plus, comme un éclat, enfin, comme un éclat de pierre. Mais ça se fait à l'écoute, à force d'écouter. Et ça se fait là aussi, on pourrait comparer, j'ai fait le portrait d'une femme qui s'appelle Irène Zack, qui sculpte le marbre. C'est un peu la même chose, elle fait le tour de son bloc, elle enlève, et son angoisse, quand on enlève en montage aussi, pareil, c'est d'arriver à une miniature. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même garder quelque chose. Mais ce qu'on enlève est aussi important que ce qu'on garde. Parce que c'est ça qui m'a... Donc, ce qu'on a gardé un jour, d'ailleurs, c'est très, très lié à l'humeur du jour. On peut très bien avoir pris ça tel jour, 15 jours après, on aurait pris autre chose. Donc, c'est complètement lié aussi à l'état physique du moment, à plein de choses, quoi. Je ne fais jamais de script, hein. Parce que si je fais un script, je vais essayer de calquer par rapport à ce que j'ai écrit, essayer de faire apparaître ce qu'il y a sur la bande. Mais je préfère... Irène Zack, c'est pareil, elle n'a pas de projet. Elle taille, et puis à un moment, elle a rajouté avec humour, d'ailleurs, que moi, je peux recoller, elle pas, quoi. Je veux dire, quand elle coupe sa pierre, quand elle taille sa pierre. Mais bon, c'est un peu... Ça a à voir aussi avec la sculpture. Enfin, c'est la même approche.
Peut-être un mot sur cette mémoire. Cette mémoire sans ciseaux, hein, cette première mémoire, ce montage virtuel, on pourrait, ou abstrait, ouais. Abstrait, disons. Je voudrais savoir si le geste. Donc, qu'est-ce qui décide l'écriture? Qu'est-ce qui décide le documentaire? C'est quoi, finalement?
C'est la matière, tout le temps. C'est la matière, quand on touche à la matière. La matière dit non, ça on ne peut pas le faire, parce que ça ne marche pas, et il faut contourner et trouver un moyen de... Il faut avancer, quoi. Mais la matière bloque tout le temps, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas faire, c'est un combat, le montage c'est un combat, c'est-à-dire il faut respecter la matière, c'est l'essentiel, c'est-à-dire, il ne faut pas ramener la matière à ce qu'on aimerait faire ou à ce qui fait plaisir, etc. Il faut avoir un dialogue juste avec ce que l'on touche comme intérieur de pierre. Mon père faisait des pavés. Il y a des jours où il en faisait 80, des jours où il en faisait 100, mais ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait de la qualité de la pierre qu'on lui donnait. Donc ses pavés étaient, bon, il en faisait 80-100, il était en accord avec ce qu'il taillait, c'est la même chose.
Question?
Je voulais savoir, vous n'avez vraiment aucune structure quand vous commencez à monter?
Non, il n'y a vraiment pas de script. Il y a beaucoup d'écoute au départ, c'est ce que je disais à Thierry. Il n'y a pas de script, parce que le script conditionnerait mon montage. Si vous marquez par écrit ce qu'il y a sur la bande, l'écrit est incapable de traduire le son parce que vous n'avez pas les résonances. L'écrit ne peut pas. D'ailleurs, ce qui m'a rassuré, c'est d'entendre Jean Rouch, donc un homme du cinéma, dire qu'un preneur de son ne devrait ne savoir ni lire ni écrire. Ce que je trouve frappé au coin du bon sens, je dirais, parce que je prétends que pour faire de la radio, il faut connaître 5 mots. Play, stop, rewind et record. Parce qu'on n'a pas d'autre influence. Il a beaucoup travaillé, lui, avec des preneurs de son africains. Et il défend cette idée que je trouve très bien. Enfin, bon, c'est un peu outrancier, polémique. Mais il faut essayer de ne pas lire, si j'ose dire. Il faut pratiquer la lecture du son. Quoi. Que le son devienne une lecture et non pas un écrit. Parce que le script va tuer le son. Il va mal définir le son, une fois de plus, il ne peut pas le traduire. Et donc, enfin, moi, ce que je dis, ça n'est que moi qui parle comme ça, je veux dire, d'autres pratiquent autrement, mais moi, j'évite de passer par l'écrit. Enfin, je pense que, d'ailleurs, à la radio, tous les accordeurs de piano sont aveugles. Je crois qu'il faut essayer de faire fonctionner l'oreille et le son d'en avoir, donc l'image sera là. Enfin. Et donc j'évite vraiment le script. Parce que sinon, sur ma bande, je vais aller chercher, si je marque à 10 minutes, on dit telle chose, je vais filer en rembobinage, je ne vais pas écouter entre ce qu'il y a entre la première et la deuxième minute. Et parfois, on revient sur ces décisions. C'est-à-dire qu'on réécoute des moments, on dit « mais c'est ça que j'aurais dû prendre ». Alors que si on fait un script immédiat, on ne va pas écouter le reste. On va prendre par écrit des passages. Voilà ce que je pense, enfin, du travail par rapport à l'écrit. Et c'est pas une critique de l'écrit non plus, mais dans le cas de la radio et du son, il faut essayer d'éviter de lire, enfin, et donc de scripter.
Je comprends parfaitement que le son dicte ce qu'on a récolté et qu'on ne va pas le mettre exactement sur papier, encore qu'on met quand même des indications sur papier d'après la matière qu'on a, et puis en réécoutant on se dit non, ça ne colle pas et c'est autre chose, etc. Mais quand tu fais une émission qui s'appelle On Nagra, il y a des axes de travail, il y a une décision qui s'est prise à un moment donné, parce qu'il y a quand même toute une ligne dans On Nagra qui est d'aller à la recherche de... notamment de Koudelski, etc. On passe sur une série d'étapes, on franchit, etc. Donc il y a quand même toute une série de lignes qui ont été définies au départ, avant de faire l'émission, quand même.
C'est le son qui va... Quand je décide d'aller voir... Là, c'est une version courte, Nagra, mais une séquence va... Toutes les séquences de Nagra sont... Je vais voir quelqu'un qui a un Nagra, déjà. Ça, c'est la seule logique. Mais à partir de là, je ne sais pas ce qui va arriver, quoi. Je ne sais pas ce qu'il va me dire, je ne sais pas...
Non, bien sûr, mais enfin, il y a une grande partie de l'émission qui est, on va jusque chez Koudelski, et on entend toutes les étapes, donc il y a une idée au départ.
Là, l'idée d'aller chez Koudelski, c'est que le Nagra devient pour moi un objet humain, donc il retourne chez son père, donc on va repasser la frontière, on va essayer de provoquer les douaniers. C'est un retour au pays du Nagra. Enfin, et quand on arrive chez Koudelski, on n'avait pas de voiture, on est parti en stop. Et on a été pris par un gars qui écoutait France Musique. Alors, évidemment, la musique qui était dans son poste et dans la voiture, je l'ai retrouvée. Et à ce moment-là, on rentre chez Koudelski en musique. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Si je n'avais pas pris cette voiture et s'il n'y avait pas eu cette musique, donc c'est une part complètement d'improvisation. Sinon, je serais rentré chez Koudelski autrement. Et c'est pour ça aussi que je n'utilise pas de musique. Mais là encore, je reviens à Jean Rouge, parce que je le cite souvent. Jean Rouge, un jour, est en train de mixer son film, à l'image des animaux en liberté, et il essaie de trouver une musique qui accompagne ces images. Et le preneur de son africain lui dit « Faites pas ça, si vous mettez de la musique, les animaux vont pas rester.
Bon, » Tout à l'heure, vous parliez en fait de la respiration qui fictionnalise un petit peu le son. Est-ce que vous pouvez développer ça au niveau d'abord à la fois sur le travail du son lorsque vous montez, mais aussi sur le travail de tournage lorsque vous abordez un sujet, notamment dans la mise en situation ou je ne sais comment vous abordez.
Alors pour revenir à la respiration, j'ai expliqué qu'on entrait plus facilement dans la fiction. Mais il y a une autre raison, c'est que je garde le rythme de la personne qui parle, c'est-à-dire que je remplace les respirations par des amorces qui ont la même durée. Ce qui fait que quand je mixe, il y a un son qui accompagne le propos. Quand je vois passer mes amorces, j'ai le temps de remonter le son qui est en dessous. Donc, je ne sais pas si je m'explique. Enfin, vous voyez défiler une bande et au lieu des respirations, il y a les amorces qui font une demi-seconde. Et sur une demi-seconde, j'ai le temps de pointer un son en dessous. Alors que si je gardais la respiration, elle couvrirait. Voilà une deuxième raison technique. Alors sur le terrain, j'arrive et j'ai pas d'a priori. Enfin, je tourne dès que je frappe à la porte. Si je frappe à la porte, ça donne déjà une indication sonore. Ou si j'appuie, si on me répond sur l'interphone, il y a une information immédiatement. Quoi. Je veux dire, donc je tourne tout le temps. Je tourne énormément, mais j'ai pas. Je sais, par exemple, que j'ai fait un travail sur le phare des Roches d'Ouvre. J'allais passer 8 jours avec les gardiens. Je sais pas ce qui va m'arriver, sinon. Il va falloir que j'aille au phare, c'est la seule. Et après, je fonctionne avec ce qui arrive. Enfin, j'essaie de ne pas décider. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop les questions, parce que si vous demandez l'heure à quelqu'un, il vous la donne, quoi, en général. Mais si vous donnez l'heure sans vous la demander, c'est beaucoup plus intéressant.
Lorsque vous rencontrez ces personnes, est-ce qu'à un moment donné, ça peut vous arriver de leur dire, est-ce que vous pouvez me jouer ça? Est-ce que vous pouvez me faire, d'arriver à faire une mise en scène, en fait, avec la personne, même si c'est sur une base de quelque chose que vous avez vu ou entendu ou,
Non, par exemple, quand j'arrive, je tourne, hein, quand j'arrive chez Samy Simon, il ne sait pas que j'enregistre, il me dit la phrase essentielle d'emblée, il me dit, c'est un agra que vous avez là, le mien était beaucoup plus lourd. Il ne me dira plus jamais ça. Si je rentre, je lui dis, monsieur Simon, en rentrant, vous m'avez dit que, c'est fini. Il ne me le dira plus. Il a dit, oui, mon magnéto était beaucoup plus lourd. Et cette phrase est capitale. Je suis à la recherche, c'est un prologue, et je veux savoir si cet arbre a été enregistré sur un agra. Et donc, ces phrases-là, ce spontané, je ne l'aurai pas si je rentre sans tourner. Donc, je tourne tout le temps, en fait. Mais un écrivain a toujours les yeux ouverts. Hein, c'est-à-dire, il emmagasine des images. Le problème en technique, c'est qu'à un moment, il faut changer la bande. Et c'est un problème parce qu'on montre la technique à ce moment-là. Alors, il faut essayer de dévier. J'ai entendu un photographe, un très grand photographe, qui disait sur Culture, il n'y a pas longtemps, dans une émission, qu'il avait le même problème quand il changeait de pellicule. Parce que ça montre que l'appareil fonctionne. Et il veut avoir du spontané. Et lui, il chante à ce moment-là. Il a une chanson qui chante. Alors, je trouve que c'est génial. Enfin, l'autre s'étonne, évidemment, la personne qu'on photographie. Et il détourne l'attention, quoi. Donc, il faut être vigilant. Pour avoir du spontané, il faut forcément voler un peu. Enfin, mais après, au montage, il faut respecter la personne parce qu'il est possible qu'elle ait dit des choses ne sachant pas qu'elle était enregistrée. Donc, c'est là où il y a une honnêteté à avoir par rapport à la démarche. Mais jamais de... Quand je vais chez Samy Simon, je sais qu'il va falloir qu'il écoute le son. Est-ce qu'il va s'en souvenir? Je ne sais même pas. J'avais deux magnétos, je lui fais écouter le son de l'arbre. Il aurait très bien pu ne pas s'en souvenir. Immédiatement, il dit... Alors, ce qui m'intéressait, je reviens à cette séquence, Samy Simon reprend immédiatement le ton lyrique du reporter de l'époque, parce que c'est avant la télévision, et le reporter doit être l'image en même temps. Et ce que je garde en archive là, c'est le parler de Samy Simon, qui est un Français bien frappé, lyrique, parce qu'il doit retranscrire à l'auditeur, transmettre l'image. Et ça m'intéresse aussi. Les voix de femmes m'intéressent parce que ces accents vont disparaître. Donc quand on grave, une des premières choses, on fait une archive, hein, c'est du collectage en fait. On fait du collectage sans le savoir, parce que tous ces accents de femmes vont disparaître. La voix va changer. Maintenant les voix sont très différentes. Il n'y a plus de voix de coffre, enfin, comme mon père. Moi, je parle léger, quoi. Je parle de la tête. Mon père parlait du coffre parce qu'ils travaillaient en extérieur. Ils avaient besoin de parler fort pour passer au-dessus des bruits du travail. Et maintenant, on parle plutôt dans des lieux clos où il n'est pas nécessaire de porter la voix. Et les voix vont changer. Enfin, je pense que dans 50 ans, on verra qu'il y a une transformation énorme de la voix. Enfin, ça, c'est pas mon sujet, mais il y a des gens qui doivent se pencher là-dessus, étudier la transformation du corps, de la voix. Mais c'est déjà ça, quand on enregistre, ça devient forcément une archive et c'est forcément du collectage.
Vous écoutiez une intervention de Yann Parentoen à l'école INSAS de Bruxelles en 2002, un enregistrement réalisé par Étienne Noiseau. Rendez-vous demain à 15h pour la suite de notre thématique « Au fil du son ».